Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, pour musique traditionnelle, je suis remontée jusque chez Raphaël Mallier. Bonjour.
Bonjour Mathilde. Et bienvenue à Montmartre.
Voilà, Raphaël habite à Montmartre. Alors du coup, c'est sur une des collines de Paris. Aujourd'hui, je vous vois bien près devant votre partition. C'est assez surprenant pour une émission de musique traditionnelle, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la surprise. Donc je vous laisse jouer ce morceau et vous nous expliquerez pourquoi ce choix. J'aime beaucoup écouter la musique classique et puis les partitions, je trouve ça très joli. Malheureusement, j'en fais pas très très bon usage personnellement. Alors, expliquez-nous, Raphaël, quelle est votre idée aujourd'hui ? Vous aviez eu envie de me parler, donc de nous parler,
oui,
de la musique classique et de la danse.
Tout à fait, voilà. Là, c'était donc une gigue qui fait partie de la partita numéro 2 de Bach. Et qui se trouve être donc une suite de danse. Donc Bach est spécialisé notamment là-dedans, il a écrit beaucoup de suites de danse. Alors évidemment, comme c'est une musique à vocation un peu intellectuelle, elle s'est séparée d'un véritable rapport à la danse, mais dans la structure des morceaux, dans les appuis, elle a conservé cela.
D'accord, alors... si je comprends bien, donc Bach a écrit des suites de danse,
oui,
mais est-ce qu'elles ont été dansées ensuite ?
Alors, certaines personnes ont essayé, mais c'est vrai que l'écriture instrumentale
n'amène
est un
pas.
Petit peu trop complexe pour pouvoir respecter les tempos.
Mm-hmm.
Et en plus de ça, on n'en est même pas sûr des tempos. Parce que malgré les efforts de tous ceux qui font des recherches, c'est très difficile de savoir exactement comment se danser l'allemande, comment se danser la courante, comment se danser par exemple la sarabande à l'époque où c'était écrit. Donc ce qu'on pense plutôt, c'est que les premiers musiciens à jouer de la musique classique étaient des musiciens populaires de la rue qui jouaient pour faire danser. Et donc les compositeurs, afin de réunir à la fois les sensations des musiciens, mais aussi que la majorité du public se sente concernée, ont écrit des suites de danse. Et donc, en fait, dans un sens, c'est du néo-trad.
Oui, je comprends bien, parce que là, hors antenne, vous étiez en train de me dire, moi, ce morceau, je le verrais bien qu'il soit balancé comme une bourrée trois temps.
Presque, oui. Il s'appelle une gigue et le faire en bourrée trois temps serait vu comme du sacrilège, mais
du coup ça me plaît.
Mais mon héritage, ce que je connais en musique traditionnelle et les appuis que j'ai, en fait, me donne une lecture différente des suites de danse. Quand on sait, quand on se renseigne un petit peu sur les appuis physiques d'une sarabande et qu'on sait que l'appui est sur le deuxième temps, on va jouer ça différemment que quand on lit juste la partition.
Oui, parce que je reprends un peu ce que vous disiez dans une dernière émission, c'est que cette musique écrite, elle a l'avantage qu'on connaît la mélodie, du coup, elle ne s'est pas perdue, mais on ne sait pas comment c'était joué.
Voilà, on n'a aucun document sonore.
On n'a aucun document sonore, et la tradition orale s'est entre guillemets perdue, c'est ça. Enfin, il n'y a pas eu de suite de génération en génération, par exemple, qui explique un peu, enfin, qui disent non, c'est comme ça que ça se joue. Et...
Voilà, d'autant plus dans des musiques qui sont déconnectées du corps.
Effectivement, effectivement.
Parce que si on est dans le domaine du plaisir intellectuel, ce que souhaitent les compositeurs qui écrivent La mère de Debussy, par exemple, ça n'est pas une musique à danser. Mm-hmm. C'est un plaisir intellectuel, c'est une sorte de tableau pour les oreilles.
Et donc, du coup, qui s'adapte aussi à la période. Parce que moi, j'avais entendu dire que la musique baroque ou la musique classique ne se jouait certainement pas du tout de la même manière que maintenant, et que certainement que si on entendait un orchestre de musique baroque de l'époque, du XVIIe siècle ou avant, ce serait insupportable à nos oreilles. Voilà. Parce qu'on n'est pas habitué, donc il y a une modification qui se fait avec l'esthétique du temps.
Voilà, c'est pourquoi on a l'habitude de dire dans l'état actuel de nos connaissances.
Ah d'accord.
Parce qu'on en apprend toujours. Mais ce qu'on sait, c'est que même avant Bach, donc Bach c'est le 18e siècle, donc même avant Bach, au 17e siècle, il y a des compositeurs comme Lully et Marin Marais qui ont fait beaucoup de danses de salon. Donc à l'époque où il n'y avait pas l'électricité, où il n'y avait pas de DJ, où il n'y avait pas de boom, le bal était le moment pour la société de se rencontrer. Le fait de danser avec quelqu'un, c'était le moyen de savoir si son corps allait bien, si elle était en bonne santé. Les chaînes de bras et tout ça, c'est des moyens de... Et donc, la haute société, celle qui voulait se détacher du corps et élever l'esprit, a conservé quand même ce rapport au bal et a développé toutes ces danses qu'on qualifie aujourd'hui de danses baroques, avec les beaux costumes et tout ça, mais il y avait quand même ce rapport social, c'était les booms des riches, quoi.
Et il y avait des musiciens, c'est ça qui est intéressant.
Il y avait des musiciens, bien sûr.
Parce que, pour les auditeurs, je précise que, par exemple, un bal traditionnel, aujourd'hui, on va dire que 99% du temps est avec des musiciens. On a encore gardé ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a maintenant des DJ qui apparaissent, et je trouve ça aussi très bien, parce que des fois on n'a pas forcément les musiciens et on veut faire autre chose, mais on a quand même cet avantage là, c'est que c'est des musiciens sur scène et des danseurs en train de danser, et ce qui s'est perdu sur beaucoup d'autres styles de musique. Et donc à cette époque là le musicien était obligatoire, avec la danse obligatoire. Et mais ce que vous disiez, c'est que par exemple, ce que vous venez de jouer là, a priori c'est pour la danse, mais on le joue jamais pour ça.
Non, alors je ne sais pas si c'est pour la danse ou si c'est influencé par la danse. Je ne pense pas que Bach l'ait composé, dans l'état actuel de mes connaissances, je ne pense pas que Bach l'ait composé pour que ce soit dansé. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est inspiré des danses et des suites de danses. Et la danse a toujours été un moyen de cadrer des compositions.
D'accord.
Depuis le début. Il y a des suites françaises, par exemple. Et même dans le domaine de la danse, il y a les danses traditionnelles, que personne ne note, que tout le monde se transmet comme ça. Et puis il y a des danses un petit peu plus évoluées, où ils ont essayé d'établir un système de notation, exactement comme les partitions.
D'accord, quel style de danse
Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je pense notamment à la sarabande, l'allemande, et il y a un nom qui revient souvent, c'est Raoul Auger-Feuillet, qui donc a vraiment essayé de créer une sorte de
partition de la danse,
partition
en fait.
De la danse pour ces danses-là. Et donc, on se réfère à ça pour essayer de savoir comment on dansait à l'époque. Donc, tout ça est passionnant, mais surtout résonne cruellement dans nos préoccupations actuelles, parce qu'on se rend compte qu'on est dans la même chose. Quand Bizet va faire Carmen, qui va devenir le plus grand tube de musique classique, il fait appel à une culture traditionnelle, il fait rentrer des instruments traditionnels dans l'orchestre.
Lesquels?
La castagnette, par exemple,
oui,
les instruments de percussion, et puis tous les modes qui sont utilisés, les appuis, les danses. Si on fait... s'appelle une séguédille. Mm-hmm. Et non, ça c'est la ragonaise. La séguédille. En fait, tout ça porte des noms de danse en fait. Ce sont. Ouais, c'est ça. Sous les remparts de Séville. Donc,
quoi, donc en fait, ça voudrait dire que c'est vrai que la composition classique, hein, puisqu'on parle maintenant du classique, est régie finalement par le rythme de la danse. Exactement comme la musique traditionnelle est régie par le rythme de la danse.
Voilà, en fait, je crois que depuis le début de l'humanité, le premier instrument, ça a été le corps. Donc ça a été le chant et les percussions corporelles. Mm-hmm. À partir de là, l'expression corporelle de quelqu'un qui ne va pas chanter, ça va être la danse. Mm-hmm. Donc une complicité naît entre la personne qui chante et qui fait des percussions corporelles et la personne qui danse. Et à partir de là, on va vouloir de plus en plus élaborer ces choses-là au fur et à mesure de la capacité qu'on a, du temps qu'on a et de l'évolution de la société. Et on va se spécialiser. Et certains vont se déconnecter et vont dire la danse peut se danser dans le silence. Ou peut se danser avec des bruits sans aucun rapport rythmique établi et prévisible. Et d'autres vont dire la musique peut se jouer sans la danse, sans appui rythmique préétabli, et arriver à des choses très différentes. Mais à l'origine, les deux sont étroitement liés. Et on peut le voir encore aujourd'hui, par exemple, avec le jazz. Le jazz, à l'origine, est une musique à danser. Et maintenant, on a des écoles de jazz, on a des concerts de jazz où tout le monde est assis bien sagement, sans lever ses fesses de la chaise, alors qu'à l'origine c'est du charleston, c'est des musiques à danser dans les bars qui sont dans les caves et tout ça.
Ah oui, je confirme, hein, d'ailleurs il y a beaucoup de lindy hop qui mm-hmm. Danser de boogie, bon, du rock, ça c'est autre chose, mais j'ai fait beaucoup de lindy hop et ça se prête extrêmement bien, c'est fou. Vous savez jouer du jazz, vous avez un
morceau. J'essaye de jouer du jazz en effet. Et donc le rapport au tempo et au corps aussi est très important. C'est bah, pareil, hein, c'est un petit peu dans l'archer.
Parce que l'homme orchestre, c'est celui qui a plusieurs instruments.
Oui.
Et vous seriez l'homme style, alors l'homme style de musique. C'est-à-dire, on dit, alors on appuie sur un bouton, ça fait du jazz, on appuie sur un bouton, ça fait du blues, on appuie sur un bouton, ça fait du old time. On appuie sur un bouton, et c'est pratique, hein, avec vous pour ça.
Alors j'essaye, mais je dois aussi admettre mes limites, parce que tout cela n'est que des musiques d'influence grandement occidentale.
C'est vrai. Parce que là, est-ce que vous jouez de la musique orientale ou de la musique...
Alors, j'essaye, mais alors là, vraiment chose, là, hein. Je suis un bébé.
Une autre gamme, c'est...
Voilà, disons que ça fait appel à des mécanismes que nous n'avons
Exactement.
Plus. Si par exemple je parle de musique indienne, en fait, la mélodie en elle-même est déjà très importante. Mm-hmm. Donc c'est là-dedans que tout va s'exprimer. Il ne va pas y avoir de notion d'harmonie, comme on peut avoir désormais dans la musique occidentale. Mais à l'origine, c'était ça aussi. À l'origine, une voix, c'était juste une voix. Mm-hmm. Et c'est petit à petit qu'on a commencé à rajouter des accompagnements et à penser la musique verticalement. Mais à l'origine, la musique est pensée horizontalement.
Alors horizontalement, c'est la mélodie. Voilà. Et le vertical, c'est tout ce qui est l'accompagnement. D'accord ? Alors là, je voulais relever, vous avez utilisé un instrument qu'on ne voit pas souvent et qui pourtant a été extrêmement utilisé dans des temps un peu passés, notamment entre bergers, c'est le sifflet.
Oui.
Vous avez sifflé avec la bouche, hein, il n'avait pas autre chose, je suis là. Mais c'est quand même très compliqué. Alors, finalement, c'est ce qui se faisait beaucoup entre bergers, entre personnes. J'ai vu dans certains pays aussi qu'ils utilisaient ce mode de langage. Mm-hmm. Mais nous, on l'a un peu perdu quand même, hein.
Tout à fait, j'ai même entendu dire qu'il y avait une école qui apprenait à siffler comme avant, avec des cours et tout ça.
Excellent, alors mmh. C'est où ça?
Oh, je ne me souviens plus, c'était un reportage que j'ai vu comme ça, de quelqu'un qui essayait vraiment de transmettre la manière de siffler, parce qu'il y a tout un langage sifflé
mais
qui existe.
Mais tout à fait, tout à fait.
Discuter en sifflant.
Bon, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez apprendre à siffler, cherchez-nous donc l'école et surtout dites-le nous, parce que je pense que ça doit être extrêmement intéressant. Donc pour revenir à nos moutons, j'allais dire finalement, que ce soit le jazz, que ce soit la musique classique, que ce soit des musiques qui se veulent plus intellectuelles, finalement, tout est lié à la danse.
Exactement.
Ce serait un petit peu le point commun de tout ça. Et en musique traditionnelle, mm-hmm. on a la chance de ne pas encore avoir trop dissocié l'un de l'autre. Est-ce que ce serait le cas et que j'aurais pas vu ?
Disons qu'on accepte complètement le rapport à la danse ou qu'on s'en détache, c'est forcément par rapport à la danse. Puisque on va jouer sur le temps qui passe. La musique est rythmée, parce qu'elle est rythmée, elle correspond au temps.
Oui.
Donc un morceau dure un certain nombre de temps. Les gens qui jouent un morceau ensemble vont jouer ensemble pendant un certain temps. Donc dès là, comme on joue avec cette
notion,
cette dimension même, oui. avec la dimension qu'est le temps, eh bien, ça a des répercussions physiques, puisque un mouvement est aussi défini par le temps. Il est défini par l'espace, mais il est aussi par le temps, puisque c'est ça qui va déterminer la vitesse. Et comme avec les instruments, avec notre corps, on fait des mouvements, donc ils sont déterminés aussi par l'espace et par le temps. Donc, on joue d'un instrument, mais en fait, on danse avec un instrument. C'est exactement la même chose. Un danseur est un musicien dont l'instrument est le corps.
Et le corps, oui. Eh bien, j'aime beaucoup cette définition. Je vois qu'il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir parler. Orantin, nous avons parlé de votre spectacle. Du coup,
oui.
Alors je passe à complètement autre chose cette fois-ci. Ou pas, peut-être. Mais vous avez duo pour un, c'est ça ou...
Duo pour un violon.
Duo pour un violon. Alors, chers auditeurs et auditrices, quand même, un duo, normalement, c'est à deux.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce spectacle, Raphaël?
Eh bien, justement, je parle du violon comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire savoir un instrument. Donc, un instrument pour quoi faire. C'est donc un outil. Et j'ai donc un spectacle autour de toutes les musiques que j'essaie de jouer humblement et toutes les musiques que j'ai envie de jouer, et je raconte des histoires aussi, voilà, donc c'est quelque chose d'assez complet, et justement je me sers de mon violon comme un instrument accompagnateur, c'est-à-dire influencé par tout ce que j'ai pu apprendre au travers de la guitare ou du banjo ou de la mandoline afin d'accompagner des chansons. Donc,
très
comme
bien.
J'ai fait tout à l'heure, je peux siffler, mais je peux aussi chanter des chansons, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient qualifiées de non traditionnelles, à savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête, c'est une autre question. Mais je peux par exemple chanter des chansons françaises, et comme nous sommes à Montmartre...
Allez-y, il nous reste 5 minutes, nous avons de la chance.
Ah, parfait.
Et on va avoir donc un extrait de de ce spectacle.
Alors voilà, je vais chanter un petit traîné alors. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais bon, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Car du boum, c'est l'orage. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a les yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum, 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 boum. Le vent dans le bois fait ouhou, la lichose à bois fait bête. La vaisselle cassée fait flic flic frac, et les pieds mouillés font flic flic frac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage, boum. L'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout l'univers fait boum, quand notre cœur fait boum, 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 boum.
Bravo, je suis impressionnée. Juste pour les auditeurs, moi je trouve ça tellement compliqué de chanter et de jouer du violon en même temps. C'est-à-dire que soit je chante et je joue mal, soit je joue bien et je chante mal, soit je chante mal et je joue mal, mais ça ne marche pas les deux. Et vous, vous faites ça avec une telle aisance, c'est beaucoup faire du travail hein, en tout cas.
J'essaye.
Alors, chers auditeurs, si vous avez aimé, surtout faites-nous des retours parce que je voudrais savoir ce que vous pensez du coup de cet extrait de spectacle et puis de tout ce que nous a dit Raphaël. Combien d'heures, enfin, est-ce que vous avez tout de suite joué du violon en chantant ou est-ce que il a fallu plusieurs...
Non, c'est venu petit à petit avec beaucoup de travail, mais c'est vrai que ça fait partie aussi d'une tradition,
oui,
qui est de chanter des chansons au début et puis petit à petit on va trouver à s'accompagner. Au Québec, on peut s'accompagner avec la podorythmie en faisant des rythmes
avec les
pieds. Après on va demander aux gens de faire des bourdons par exemple, de chanter tous ensemble et puis nous on va chanter la chanson par-dessus.
Le bourdon, c'est quand on a fait une espèce de nappe hein, avec
voilà,
une note
voilà. Et quelqu'un chante par-dessus.
Mm-hmm.
Ou alors on peut faire aussi des chansons à répondre, où on va dire quelque chose et le public va répondre.
Mm-hmm.
Donc on va trouver des stratagèmes pour accompagner la chanson. Et petit à petit, en fonction de notre évolution de lutherie, on va commencer à avoir des instruments qui ne vont plus être seulement percussifs, qui vont commencer à jouer des mélodies. Et donc je suis persuadé qu'au début c'était juste un accompagnement comme ça pour chanter une chanson ou même pour raconter des contes. Et puis petit à petit on a commencé à poser des doigts et puis on a commencé à rajouter un archer pour raconter des chansons. J'ai connu une fillette d'un village où je suis né. Son prénom était Jeannette et j'étais son préféré. Ah, mais elle était si laide que lorsqu'elle allait au champ, elle attirait les corneilles, effrayait les habitants. La suite peut-être au spectacle.
Et voilà, nous allons nous quitter donc là-dessus, sur ce début de chanson. Merci énormément Raphaël Maillet, duo de Montmartre.
Mm-hmm.
Merci pour toutes ces émissions et puis j'espère qu'on trouvera des idées pour vous inviter à nouveau.
Avec joie.
Je suis sûre que vous en avez. Au revoir.
À bientôt, merci de votre écoute.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.